Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi dans le JDA. Nous attendons vos réactions à la situation en République démocratique du Congo, toujours dans l'attente d'un gouvernement. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a été nommé le 20 mai dernier, mais son gouvernement se fait toujours attendre. Alors qu'en pensez-vous? Les négociations entre la majorité et le nouveau pouvoir peuvent-elles aboutir? Peut-on parler de blocage constitutionnel? Pour participer, nous faire part de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Nous en parlerons dans quelques instants avec Patrick Mboyo, enseignant en droit constitutionnel et relations internationales à l'Université d'Evry en France. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vais vous parler d'une victoire d'étape. Il s'agit de l'affaire dont je vous avais parlé, de l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Un tribunal fédéral suisse vient de suspendre le règlement qui avait permis de l'exclure. Et elle a fait appel. Donc, mardi 11 juin, elle va concourir à Montreuil en attendant que la décision d'appel ait lieu. Donc, c'est une victoire d'étape. Continuons de la soutenir. Bonne journée à tous.
Bonjour Africa Radio, voilà, j'interviens par rapport au propos de monsieur, c'est Henri Konabedi. Et voilà la preuve encore que Henri Konabedi est celui-là même qui a mis la Côte d'Ivoire en feu en sang. Et voilà des propos soi-disant que le gouvernement prend des étrangers pour envoyer à Abidjan, sinon à Bobo, et d'autres encore, je ne sais pas, dans les zones d'orpaillage. Et la preuve en est que ce monsieur-là est celui-là même qui est la cause de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il s'est empressé de demander à M. Alassane Dramani Ouattara d'envoyer M. Gbagbo Laurent à la CPI. Et j'ai dit, bien vrai que je suis de l'FPI, et je dis, je répète, que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est M. Henri Konabedi.
Oui, bonjour, Mme Stéphanie Hartmann, bonjour, chers amis auditeurs. Mme Stéphanie, je voudrais m'adresser surtout aux politiciens ivoiriens, en particulier le président Bédié. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il sache que les propos des politiciens peuvent avoir un impact quand même sur la vie des Ivoiriens. Il va falloir quand même qu'il sache ce qu'il dit, parce que c'est très important. De nos jours, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. On a fini avec une crise de près de 16 ans maintenant. Je pense que de nos jours, qu'est-ce qu'on demande? C'est surtout de nous présenter les programmes. Les programmes disent qu'est-ce qui peut faire mieux pour les Ivoiriens, qu'est-ce qui peut faire mieux que le président actuel qui est en place. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, je pense qu'ils ont pris conscience. Les Ivoiriens, c'est pas... On ne peut pas jouer avec les Ivoiriens comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils cherchent des propos qui peuvent quand même diviser. Ça, c'est fini, ça. Et les Ivoiriens sont matures aujourd'hui. Et tous, hein, et que ce soit Alpha, je ne sais pas, Alassane, Bédié, Gbagbo, Sorghum, on veut qu'ils nous présentent leurs programmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux pour nous, les Ivoiriens? Je pense que chasser les étrangers en Côte d'Ivoire n'est pas un programme. Ça, ce n'est pas un programme. Nous, on verra quand même qu'il nous présente des programmes. Merci et bonne journée à tout le monde.
Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Afrique Radio. Je suis tellement triste de voir tout ce qui se passe au Mali. C'est vraiment triste. Je ne sais pas comment Ibeka va se prendre, mais je pense qu'il est temps qu'il fasse arrêter tout ça. On ne peut pas tuer des gens comme ça, gratuitement, qui ne connaissent rien, des innocents qui ne profitent même pas du système, ni de quoi que ce soit. femmes dans la misère, eux-mêmes, ils se cherchent. Mais voilà, on tue comme ça. C'est, franchement, le Mali, il y a une déstabilisation totale de ce pays-là, finalement. 95 personnes, c'est beaucoup, on les tuait comme ça. 19 disparus. Et on ne sait même pas les jours à venir, qu'est-ce qui va encore se passer. Le gouvernement malien, là, quand j'avais dit, moi, je disais que ça ne va pas donner des solutions, chercher à remanier un gouvernement, parler avec, c'est pas ça. Il faut trouver des solutions nettes et claires pour mettre fin à ces attaques barbares-là.
Bonjour Madame Ackman, bonjour Africa Radio. Nous intervenons pour nous incliner devant les mémoires des victimes de cette barbarie humaine et tout ce qui a été tué froidement dans notre pays. Les voilà les résultats de l'équilibration de ces hommes politiques de 1991 de nos jours, car ces hommes politiques ont y participé, ont organisé toutes sortes d'associations, création des associations ethniques, associations communautaires et linguistiques dans notre pays. Ces associations ont profondément participé de diviser profondément certaines communautés dans notre pays. Donc, par conséquent, nous disons qu'il est temps de démanteler, vraiment de faire un démantèlement total de toutes ces associations ethniques dans notre pays. Donc, nous serons terminés sans vous dire qu'il est temps. Il est temps de stopper car les mêmes pensées et les mêmes idées étaient en cours dans notre pays qui est découpage territorial. Car le découpage territorial sera à l'origine dans l'avenir une théorie de masse, une guerre fratricide incontrôlable, que Dieu protège le Mali, à bon entendeur. Salut, nous sommes Christ, profondément Christ.
Oui, bonjour Africa Radio. Encore nous les Africains, on fait des cauchemars de vous. Près de 100 Maliens massacrés par les démons. Franchement, ces personnes-là, peut-être c'est des personnes qui ressemblent des humains, c'est pas des humains, c'est des démons. Je pense encore au président Ibeka. Je ne sais pas pendant combien de jours il va pleurer ce président. Je ne sais pas combien de mois il va pleurer ce président. Lui, il est tellement sensible aux morts. Les Blancs sont morts. Il a pleuré surtout. Ce sont ses frères maliens qui sont morts cette fois-ci. Je ne sais pas combien d'années il va pleurer ça, sans arrêt. Et ça a l'air arme. Bonne journée.
Oui, bonjour Radio Africa. Bonjour le peuple congolais. Bonjour nos frères de l'UDPS. Je me permets de vous laisser ce message pour dire aujourd'hui, il y a le blocage au Congo. Tout se passe entre les accords qui avaient été signés entre M. Tshisekedi et Kabila. Aujourd'hui, M. Tshisekedi Félix se retrouve à une position. Il a peur de M. Kabila, il a peur aussi de la population. Donc il s'est mis en danger personnel lui-même. Le plus grand problème qui se passe actuellement, il doit avoir le courage, M. Félix, de dire ouvertement quels sont les accords qu'il avait signés avec le FCC pour que le peuple ait le courage de faire des manifestations afin qu'il s'en sorte de cette histoire. Sinon, ça va durer le plus longtemps possible et la situation ne se débloquera jamais. Donc notre frère doit savoir qu'on peut le secourir, mais à condition qu'il avoue lui-même quels sont les accords qu'il avait signés. Il avait eu le courage à Genève de retirer sa signature. Il doit faire la même chose avec tout ce qu'il avait signé avec M. Kabila. Et en ce moment-là, on trouvera une solution pour que tout se passe dans la tranquillité.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. J'en profite pour faire un salut spécial à nos auditeurs du côté d'Abidjan sur 91.1 FM et à toute l'équipe d'Africa Radio qui prépare actuellement le lancement officiel de la radio. Ce sera demain, le 12 juin, au Sofitel. Voilà pour le message. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous parlons de la RDC, toujours dans l'attente d'un gouvernement. Les deux formations au pouvoir, le Front commun pour le Congo, majoritaire à l'Assemblée nationale, et le Cap pour le changement, Cash, qui a remporté la présidentielle, n'arrive toujours pas à accorder leur violon pour former un gouvernement. Nous en parlons tout de suite avec Patrick Mboyo, enseignant en droit constitutionnel et relations internationales. Patrick Mboyo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Patrick, à une semaine de la clôture de la session ordinaire du Parlement, au cours de laquelle normalement le nouveau gouvernement devrait être investi, des sources rapportent que le FCC et le CASH n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la répartition des postes ministériels entre les deux coalitions. Est-ce qu'on peut parler d'un blocage constitutionnel, Patrick Boyau ?
Le blocage n'est pas constitutionnel, Stéphanie Hartmann, puisque l'article 78 de la Constitution, alinéa 4, précise que le président de la République nomme les autres membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. En l'occurrence, c'est au Premier ministre que revient, de manière constitutionnelle, la responsabilité de proposer des personnes qui seraient désignées, qui seraient nommées ministre ou vice-ministre par le président de la République. Ça, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Le texte qui est censé être suprême, hein, je dis toujours qu'il est censé parce que plusieurs fois, il est torpillé et détricoté, ce texte.
C'est pas faux.
Et sur le plan politique, bien entendu, ces tractations qu'on observe, qui se passent directement entre Joseph Kabila et son poulain Félix Tshisekedi, traduisent simplement le fait que le Premier ministre n'est qu'un échantillon. Et qu'en réalité, le véritable Premier ministre, c'est Joseph Kabila. Puisque,
alors, c'est intéressant, oui, parce que je voulais rebondir, Patrick Boyau, vous disiez, finalement, c'est au Premier ministre qui revient la charge de proposer les membres de son gouvernement. On rappelle le nom du Premier ministre, hein, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nommé le 20 mai dernier. Il a dit, hein, il y a quelques jours, moi j'attends la fin des négociations.
Oui, il attend la fin des négociations parce que ce n'est pas lui le véritable Premier ministre. Il se met évidemment hors jeu. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de réel pouvoir, il est là par la volonté d'une seule personne, M. Kabila en l'occurrence, qui a voulu qu'il soit là, et pour manifester encore le poids ou le contrôle qu'il a sur les institutions de la République, Joseph Kabila impose à Félix Tshilombo de venir négocier avec lui directement, court-circuitant ainsi cette personne qui avait été nommée et mettant ainsi hors jeu l'article 78 alinéa 4 de la Constitution. Malheureusement, cette situation va conduire dans l'avenir à ce que les ministres qui vont être désignés ne seront loyaux pas vis-à-vis du Premier ministre qui les a proposés, pas vis-à-vis du président non plus qui les a nommés de manière formelle, mais vis-à-vis de Joseph Kabila qui lui seul aura été le maître de jeu. Et c'est là, alors, c'est encore une façon.
Avant d'écouter nos auditeurs, Patrick, qui sont nombreux à vouloir intervenir, une question, est-ce qu'on peut espérer avoir un gouvernement avant la fin de la session parlementaire, dans une semaine ?
Je n'espère pas.
Donc si la session parlementaire venait à se terminer et qu'il n'y avait pas de gouvernement, est-ce que là on ne serait pas dans un blocage, peut-être pas constitutionnel, en tout cas au moins institutionnel ?
Pas de blocage. Bon, blocage ou pas, je ne sais pas trop, parce que la RDC est habituée à fonctionner un peu de façon particulière. Je ne parlerai pas de blocage institutionnel. Néanmoins, dans votre question, je relève quelque chose de particulier que j'ai découvert ce matin à l'article 79, toujours à l'article 78 hein, de la Constitution, en ce qui concerne l'identification de la majorité. Donc, je vais faire une interprétation un petit peu téléologique. Il est dit que s'il n'y a pas de majorité pour que le président nomme un Premier ministre, celui-ci confie une mission d'information de personnalité en vue d'identifier une coalition. Et cette mission est dure pendant un mois, renouvelable une seule fois. Cela veut dire que si je fais une interprétation utile, sous le principe de le fait utile d'un texte, je dirais que le délai raisonnable pour avoir une constitution à partir de l'élection ou de l'investiture du président de la République, le délai raisonnable pour avoir un gouvernement, il est de 2 mois au plan constitutionnel. Or, nous sommes à plus de 2 mois depuis que Félix Tshisekedi a été investi président de la République.
Merci Patrick pour ces précisions sur la Constitution. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. On va écouter Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Louis, bienvenue dans le journal des auditeurs. Ça vous inquiète cette absence de gouvernement en RDC ? Du côté de la majorité, on sait pas grave, on dit la Belgique a vécu un an sans gouvernement.
Oui, mais d'accord, il ne peut pas comparer la Belgique avec le Congo. Hein. Vous savez, la Belgique c'est un royaume, hein, et ensuite ils ont une administration qui fonctionne depuis longtemps, ils ont une administration bien structurée. Le Congo, c'est pas pareil, hein. Donc, les gens qui comparent la Belgique avec le Congo, je ne sais pas. Écoutez, hein, comparaison n'est pas raison. Bon. Voilà. Ok. Moi, je revenais encore par rapport au manque de la formation du gouvernement, comme vous l'avez titré votre émission. Je pense que M. Tshilombo doit tirer les conclusions. Il avait signé les accords à Genève, il s'est retiré. Je pense qu'il a signé un deal avec les accords avec Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ça patauge, ça piquine. Donc, rien n'avance. Il a la corde au cou, il faut le dire, clairement. C'est une insulte.
Vous voulez dire, il a plutôt les mains liées plutôt que la corde au cou?
Il a les mains liées, la corde au cou. Il ne peut pas bouger. Donc, tant que Kabila ne lui donne pas des ordres, il ne peut pas bouger.
Pour vous, ça reste, Joseph Kabila, le vrai président de la RDC, c'est ce que vous dites. C'est ce que disait un peu Patrick Boyot en disant que finalement, le gouvernement aura des comptes à rendre à l'ancien président et non à l'actuel.
Exactement. Bon. M. Patrick Boyot a fait une analyse pertinente. Donc, Tshilombo ne peut pas bouger. Tshilombo ne peut pas bouger. Donc, il est en train de rendre le Congo ingouvernable. Le Congo est ingouvernable. Je ne vois pas pourquoi il est allé signer les accords avec Kabila, alors que nous, au niveau de l'étranger, nous avons fait un travail de fou pour acculer M. Kabila de façon qu'il ne puisse pas se présenter. Et je vous l'ai dit, je suis parmi l'une des personnes qui ont mis en place le mouvement de combattants ici en France. J'ai les documents.
On comprend bien, hein, Jean-Luc Mwenga, que vous avez milité pour l'alternance en République démocratique du Congo. Et puis voilà, finalement, vous vous dites cette alternance n'a pas eu lieu. Le président actuel a les pieds et mains liés. On va écouter Oliver. Oliver, bonjour.
Bonjour, c'est Olivier Nguanza, président de l'association Grand Lac Banalemba et président de tous les ressortissants de la RDC de la ville de Benoît dans le 91.
C'est bien noté, donc, la ville de Benoît en France, on précise bien sûr, là, Olivier. Oui. Mais alors rassurez-moi, vous n'allez pas parler en votre nom propre. Vous avez entendu Jean-Louis qui dit, voilà, finalement, il est en train de rendre le Congo ingouvernable. Qu'en pensez-vous?
C'est tout à fait normal parce que au départ, c'était déjà... il est mal parti pour avoir accepté de signer des accords avec Kabila. Donc là, maintenant, il est bloqué parce qu'il cherche à avoir des postes ministériels clés et les FCC, il est en train de bloquer parce que c'est eux qui sont majoritaires. C'est eux qui doivent former les gouvernements. Donc, et ils ont besoin de tous ces postes-là. Donc, ils ne vont pas laisser ça à Félix. C'est ça les problèmes. Et Félix, il est en train de négocier pour ne pas...
Et que peut-il négocier en échange de quoi?
En échange de ce qu'il a signé, qu'on puisse lui laisser quand même la mainmise sur le poste clé du gouvernement. C'est ça les problèmes. Et FCC, il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder. C'est ça les problèmes.
Merci Olivier, le FCC, hein, Fonds commun pour le Congo, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat et encore dans les assemblées provinciales et même les gouvernorats. Alors il y a eu un peu du mouvement hier au Palais du Peuple, des centaines de militants et de sympathisants de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, ont envahi le siège du Parlement congolais, justement pour dénoncer le débat organisé à l'Assemblée nationale au cours de la plénière vendredi dernier. Durant laquelle il y a eu des mots très durs envers le président de la République, critiquant les ordonnances qu'il avait signées. Une frange estime que ces ordonnances violent la Constitution, une autre les trouve conformes à la loi fondamentale. Pasteur, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Pasteur. Est-ce que finalement le seul moyen dont dispose Félix Tshisekedi pour faire peser dans le rapport de force face à la majorité FCC, c'est ses militants UDPS?
Déjà, merci de m'accorder la parole et je salue votre invité, M. Mboyo. Merci aussi pour ses analyses, encore une fois de plus, très pertinentes. Il a tout expliqué, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, le rapport de force entre cette coalition est déséquilibré. Le FCC n'a aucun pouvoir, on le voit bien. Le CACH n'a aucun pouvoir, c'est plutôt le FCC qui détient tous les pouvoirs. Et donc, du coup, M. Tshilombo s'est mis dans une situation où, en même temps pour la forme, pour le peuple et pour ses militants, donc les combattants, comme vous avez dit, qui sont très, très virulents, qui sont très actifs, et donc, pour devant eux paraître détenir un quelconque pouvoir, il est obligé de négocier des postes clés, c'est-à-dire des ministères bien régaliennes, pour arriver aussi à diriger. Sauf qu'en face, on ne va pas le laisser faire, parce qu'il y a un plan qui a été mis en place par le FCC, dont M. Alias Kabila a bien préparé tout, pour qu'il arrive à avoir certes le poste de président, mais que lui puisse récupérer la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée, pour éventuellement, au cas où il voudrait bouger ou se rebeller, donc M. Tshilombo, et qu'il puisse le mettre en accusation, et pour pouvoir faire plus tard en sorte qu'il soit destitué. Et d'ailleurs, les gens de l'UDPS, les combattants, les militants qui sont venus manifester hier, ont compris cela, parce qu'on a déjà vu les députés commençaient à remettre en cause, une ordonnance du président, alors qu'ils n'avaient pas à le faire, même pour la forme. Et donc, dans l'époque de Arias, il n'y avait jamais ce genre de choses. Donc, ils sont déjà en train de préparer les gens pour leur expliquer que le président actuel n'est pas assez compétent ou bien il est assez, ils ont dit irresponsable. Et donc, pour plus tard, pour pouvoir préparer cette destitution. Donc, c'est vraiment dommage que M. Tshilombo a accepté de pactiser avec le diable pour avoir le pouvoir, sans pouvoir, en tout cas, maîtriser un minimum de levier pour pouvoir faire en sorte de gérer quand même, malgré tout, un peu le pays. Même dans ses nominations, on l'a bien vu au niveau de la sécurité, au niveau des militaires, on sent toujours la main de l'ancien régime et que les gens qu'il met en place sont souvent toujours des adjoints de ceux qui étaient déjà là.
Donc, on est dans la gestion de compromis, mon cher pasteur, si je vous comprends bien.
Oui, tout à fait.
C'est une voire de compromission.
Oui, il est compromis jusqu'au cou, vraiment. Je dois vous dire, je ne sais pas, j'espère vraiment pour lui qu'il a une stratégie derrière, parce que bon, c'est un homme politique, je ne peux pas le sous-estimer. J'espère qu'avec son entourage, son but n'est pas quand même de l'aller jusqu'au bout de ce pacte avec M. Alias, mais qu'il arrivera à trahir comme il a déjà trahi les autres, et que celui qui a trahi, trahira. Il a trahi déjà les autres, et qu'il trahira aussi celui-là, pour qu'en tout cas, le peuple congolais puisse se retrouver, et qu'il arrive à faire, en tout cas, qu'il veut faire.
Merci pasteur, on va demander dans quelques instants à Patrick Boyau de quelle marge de manœuvre dispose justement le président Félix Tshisekedi pour se détacher de cette majorité FCC pour retrouver sa pleine liberté. On écoute encore Hans et Jérôme. Hans, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Hans, vous êtes à peu près sur la même analyse que les précédents auditeurs. Vous dites que c'est un président en otage, il ne peut rien faire. De quels moyens dispose-t-il pour faire pression sur la majorité? Est-ce que faire sortir les militants UDPS, ce serait un geste fort?
Il n'a aucun pouvoir. Il est commandé. Quand on sort le mot déboulonner, il faut savoir, tu vas déboulonner qui? On va déboulonner toi-même ou on va débrouiller la majorité. Il n'a rien là. Il ne peut rien faire. C'est un président en otage. Tout ce que je voulais dire, c'est ça. Il est en otage.
Bah, vous l'avez dit, Hans. Mais merci.
On a trouvé un petit faible, la République. Au lieu de laisser la Mouka de faire le travail, on a trouvé élément faible de la République. On ne peut rien faire.
Bon.
Il ne peut rien faire, lui.
C'est très clair. Merci, Hans, qui pense qu'on ne peut rien faire. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Jérôme. Vous dites, finalement, ça détourne des vrais problèmes des Congolais. On peut parler de l'épidémie d'Ebola qui continue à sévir dans l'Est, des massacres également aussi à Beni ou encore en Ituri.
C'est vraiment ça. Quand on regarde un peu la politique au Congo, comme à l'image de tout ce qui se passe dans les pays africains, c'est-à-dire que les présidents ou les hommes politiques...
Ouais, c'est quand même particulier en RDC, c'est en RDC qu'on a inventé le glissement. Chaque pays a ses spécificités.
C'est clair, mais globalement...
Reconnaissons ce génie aux Congolais.
On a toujours le même résultat, c'est-à-dire que le peuple est souffre. C'est-à-dire qu'ils sont élus pour faire de la politique, mais pas pour gérer le pays. Leur prix de guerre, ils le font jusqu'à ce que leur mandat passe. La population souffre et ça continue. Mais moi, je pense que le président congolais qui est là, si... Moi, je suis pas congolais, je suis africain, moi, je me nomme comme ça. Et du moment où il a une majorité qui ont élu, et cette majorité-là, même si ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une élection législative, la population devait quand même le soutenir pour que le Congo aille mieux.
Élections législatives,
moi, quand j'entends les Congolais qui... qui sont en train de dire oui, il a joué avec le diable, voici ce qui lui arrive, mais le problème, c'est pas lui, c'est le Congo qui est en jeu, quoi. Mmh. Ils devaient tous se mettre ensemble. L'autre, il n'est plus président, même si les députés sont là, ces députés-là devaient être conscients, mettre de l'eau dans leur vin et essayer d'avancer le pays. Les gens viennent, ils pillent le pays, on tue des gens tous les jours. Et là, on est en train de parler de qui va faire quoi. C'est vraiment des... ça me fait mal au cœur à chaque fois que j'interviens. C'est pas possible, quoi. Ça
merci.
Et il faudrait que les Congolais, de quelque bord qu'ils soient, qui soutiennent ce président-là, même si c'est pas celui qu'ils ont choisi, pour que le Congo passe un pas. Parce que vraiment, trop, c'est trop.
C'est très clair. Merci Jérôme. Jérôme hein, qui appelle finalement la population à soutenir le président Tshisekedi. Christian, merci de votre patience. Bonjour.
Ouais, bonjour, la compagnie.
Christian, un petit mot peut-être de conclusion. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Vu du Tchad, quel regard portez-vous sur cette situation au Congo ?
Oui, la situation au Congo, il montre que Félix Tshisekedi n'a pas les mains libres pour décider. Il y a une main cachée derrière qui dirige la RDC. Il n'a pas le pouvoir de réformer le gouvernement jusqu'à aujourd'hui.
C'est très clair, Christian, qui a bien résumé la situation. Patrick Mboyo, je reviens vers vous peut-être pour une dernière question. Un des auditeurs a évoqué peut-être le projet pour les députés FCC d'entamer une procédure de destitution du président Tshisekedi. Dans quelle mesure cela serait-il possible ? Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est tout à fait possible parce que à partir du moment où il y a un député qui a parlé publiquement lors de la réunion d'un président, en l'occurrence Félix Tshilombo, qui a géré en état d'inconscience, c'est là qu'a quand même une certaine gravité hein, de qualifier l'acte d'un président pris de manière inconsciente, c'est-à-dire il y a un danger, un risque de ne pas garantir l'indépendance du pays et la souveraineté de la nation. Dans ce contexte, oui, le Parlement peut se saisir de cette question et entamer une procédure de destitution, mais je pense qu'on en est encore loin. Hein. Le scénario serait trop simple pour Joseph Kabila, dont j'ai appris à étudier les stratégies depuis plusieurs années. Je pense que ce serait beaucoup trop facile. Tout le monde sait que c'est quelque chose qui est acquis. Là, c'est quelque chose que Kabila voudrait déjà mettre dans l'opinion, que c'est quelqu'un qu'on peut destituer facilement et ça passerait dans l'opinion de manière générale, d'autant plus qu'une bonne partie de la population ne l'apprécie pas, n'a pas voté pour lui et ne voudrait pas du tout le soutenir. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il faudrait chercher à l'affaiblir et surtout à justifier la nécessité du retour de Joseph Kabila. Oui. Faire sauter Tshisekedi, c'est quelque chose d'acquis, c'est simple. Ça peut se faire en une journée, ça passe. Mais le problème, c'est que comment justifier la nécessité du retour de Joseph Kabila ? Parce que c'est ça l'enjeu principal. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes derrière ? Est-ce que la population... Comment canaliser les colères ?
Pas sûr que les Congolais acceptent un retour de Joseph Kabila si rapidement. Rapidement aussi, Patrick Boyau, plusieurs auditeurs et vous-même aimez à appeler le président Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo. C'est son nom, son entier, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi vous insistez sur Tshilombo ?
Parce que il est clair qu'avant d'être élu député national, on n'a jamais su qui s'appelait Tshisekedi. Et la plupart de moi, j'ai des informations correctes, coordonnées, qui affirment, qui démontrent clairement qu'il n'a jamais porté le nom de Tshisekedi, son nom. Parce qu'au Congo, il faut savoir qu'il y a le nom et le post-nom qui étaient institués par Mobutu lors de la zaïrisation, le retour à l'authenticité. Hein, peut-être bien après la zaïrisation. Donc, son nom de famille, c'est Tshilombo, parce que chez les Baloubes, en général, les enfants, s'ils prennent le nom du père, ça vient au niveau du post-nom et non pas au niveau du nom. Surtout les Baloubes, dont son origine à lui, je précise bien, Tshisekedi.
On a mieux compris, finalement. Tshilombo, c'est le nom de sa mère, alors ?
Tshilombo Kabongo. Ça, c'est le nom que moi, je connais de lui, mais je ne précise pas. Je veux que ça soit un peu clair, que je ne suis pas en train de donner son identité réelle. Je dis, c'est que moi, je sais son nom, son patronyme, c'est Tshilombo.
Le père est bien son père ?
Bien sûr, c'est son père.
Voilà. On va affirmer là-dessus. On arrive à la fin de l'émission, Patrick. Merci beaucoup de vos éclairages importants sur cette situation en République démocratique du Congo. Patrick Mboyo, je rappelle que vous êtes enseignant en droit constitutionnel et en relations internationales à l'Université d'Evry. C'est en région parisienne, en France. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, sur le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. Nous diffuserons vos messages demain. Prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.